RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est en direct, c'est à la radio, c'est à la télé RMC Story, c'est sur le canal 23 de la TNT. Thomas Porcher, professeur d'économie, Johnny Blanc, chef d'entreprise dans les Deux-Sèvres, et Zora Bitant, c'est le trio de GG qui est avec nous et avec vous depuis 9h ce matin. On va encore avoir pas mal de thèmes de discussion ensemble. Tout à l'heure, à 11h20, GG 7 et match sur les salaires. Les Français ont-ils raison de se plaindre? Un Français sur deux se dit mal payé. Oui pour Thomas et Olivier, non pour Zora et Johnny. À vous de choisir à 11h. Un jeune Français sur 10 est en difficulté de lecture. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, s'alarmer? Ou la proposition de Clément Beaune, le ministre des Transports, il demande aux sociétés d'autoroutes de baisser de 10% les péages cet été. Alors, ça a déjà été fait pour l'année dernière, pour ceux qui avaient des cartes vacances. Et si on fait 10% pour tout le monde, qu'est-ce que vous en dites?
Sachant que ça augmente à peu près de 5% chaque année.
Vous faites un...
Clément Beaune, mais il ne le dit pas, ça.
Vous faites un choix sur notre site internet rmc.fr. Et puis, on a le « ça se passe chez vous » tout à l'heure, à 11h20, « ça se passe chez vous » à Grasse, où le maire va augmenter le tarif de l'eau pour l'été. En attendant, revenons sur la taxe des ultra-riches. On va parler, bref, des impôts.
RMC, les grandes gueules.
T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé.
Déjà connu. Ah là 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 là.
C'est une oubliade, ça.
Un grand classique, effectivement. En fait, c'est une espèce de passage au crible et au tamis des revenus des 37 800 foyers français les plus riches, qui sont proportionnellement moins imposés que ceux du reste du pays.
Alors moi, j'ai envie de positiver cette étude déjà parce que ça montre, et c'est une étude très sérieuse de l'Institut des politiques publiques, ça montre que pour 99,9%, finalement, le système fonctionne bien, les gens payent de l'impôt. Donc on nous explique toujours que les plus pauvres ne payent jamais d'impôts, que les... Enfin, tout le monde paye des impôts, parce qu'il y a la CSG aussi, qui est un impôt, hein, même si on n'appelle pas ça un impôt. Donc à un moment donné, tout le monde paye de l'impôt sur le revenu. Là où ça pose problème, c'est qu'il y a les 0,1% les plus fortunés qui voient leur taux d'imposition passer de 46 à 26%, notamment pour les 75 foyers les plus riches. C'est-à-dire que ce sont les gens les plus riches et ils ne sont imposés qu'à 26%. Alors, c'est pas les 2% que ton copain Thomas Porcher et Gabriel Zucman avaient mis en avant. Donc, c'est pas 2%, mais c'est 26%. Et 26%.
Mais quand on fait le calcul, regarde.
Alors simplement, voilà. Pourquoi
Gabriel
pourquoi
Zucman n'est pas mon copain. Non. Je l'avais cité, je sais. Je l'ai jamais rencontré, mais.
Non, mais il allait un peu dans ton sens, voilà. Ouais. Bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'effet pervers de la baisse de l'impôt sur les sociétés.
Oui.
Et ces gens-là, ces ultra-riches, comme on les appelle, en fait, ils mettent leur argent dans leur holding. Et donc, c'est moins imposé que si c'était leur propre revenu. Alors, est-ce qu'il faut corriger cela? Comme on le fait, visiblement, c'est pas si simple. Parce que Macron ne veut pas remettre l'impôt sur la société plus haut parce que c'était toute sa politique. Mais c'est vrai que ça semble quand même injuste que les ultra-riches, ils sont pas très nombreux, payent finalement moins que les autres, proportionnellement.
Le problème, c'est que on confond un peu les choses. Parce que quand on dit ça comme ça, on a l'impression que les gens, ils peuvent tirer de l'argent et eux, ils sont pas imposés.
Non, ils sont l'argent, imposés, mais un peu moins que...
Les résultats que tu fais remonter dans ta holding, c'est pas de l'argent que t'as prélevé. Il reste dans la société.
Oui.
Donc c'est ça.
Oui, mais quand la société t'appartient.
Oui, mais tu dis pas.
Tu la transmets à tes enfants, etc.
Je suis d'accord avec toi, mais quelque part, c'est pas de l'argent qui te sert à vivre. C'est aussi de l'argent qui te sert à créer de l'emploi, qui sert à investir dans l'entreprise, qui sert à... Donc c'est ça, faut faire attention. N'importe quel dirigeant d'entreprise, s'il prélève de l'argent sur l'entreprise pour personnellement, il est taxé comme tout le monde. Voire même plus.
Sauf que là, on parle de gens qui ont des dizaines de millions d'euros, voire parfois des milliards. Ils les appellent d'ailleurs les milliardaires. Donc cet argent, qu'est-ce que tu en fais? Quand t'as des milliards,
tu récupères combien?
Tu le mets en action, tu t'achètes de l'immobilier. D'ailleurs, plus tu deviens riche, moins ta part d'immobilier, c'est-à-dire elle est beaucoup plus faible dans ta fortune. C'est-à-dire que même quand t'as 20 millions d'euros, et on parle pas de ces gens-là, 20 millions d'euros, t'as 80% qui sont des actions, des choses comme ça. Donc là, on voit bien, en fait, qu'il y a un jeu entre ce que tu mets dans ta société pour dire c'est pas ta fortune, mais en fait qui te rapporte plus, mais qui est quand même ta fortune si ta boîte t'appartient, tu vois, de ce que tu vas mettre dans les marchés financiers en achat d'actions, est-ce que tu vas mettre dans l'immobilier. Et là, en fait, ce qui pointe du doigt, alors tu as raison de le rappeler, on parle vraiment des hyper riches.
Ouais,
on va parler des quelques, allez, on parle d'une quarantaine de familles, on peut même aller plus loin, de 500 familles françaises qui sont très très riches. On parle en fait d'un impôt qui serait régressif sur les très très riches en fait.
Voilà.
Si on prend les 1% de la population, c'est dans ces 1% de la population les plus riches que là il y a une régressivité de la fiscalité.
Sur le reste,
il y a une progressivité.
Voilà.
Alors mais qui mérite quand même un débat. Alors ça concerne vraiment 99% des gens.
Oui, mais c'est un symbole aussi.
Mais c'est un symbole aussi effectivement de devoir.
Le terme qui me gêne, c'est impôt sur le revenu. On parle pas d'impôt sur le revenu, c'est pas un revenu. Je suis désolé. Moi par exemple dans ma société,
mais il y a un taux d'imposition. Non, mais
je dis n'importe quoi.
Dans ton revenu global, tu peux mettre quand même plein de choses.
Dans ma société, je vais dire demain, je dis n'importe quoi, je fais un résultat à ce niveau-là, mais mettons tu fais un résultat de 300 000 euros, je prélève pas, je laisse l'entreprise pour réinvestir. Alors on va dire, oui, mais c'est ton entreprise, donc c'est un revenu. Ben non, je le laisse dans l'entreprise, ça me permet de créer de l'emploi, d'investir, d'acheter du matériel. Enfin, c'est pas la même chose.
Oui, mais là, c'est pas le même cas.
Je suis désolé, un impôt sur le revenu, c'est que si tu prélèves de l'argent, c'est un revenu. Tant que tu le prélèves pas de l'entreprise, c'est pas du revenu. Je suis désolé, tu capitalises, certes, mais à ce moment-là, ça s'appelle l'ISF, c'est plus un impôt sur le revenu. C'est un impôt sur ta fortune, mais c'est pas un impôt sur le revenu.
Mais il n'y a plus d'ISF.
Mais après,
ce qui est intéressant, c'est justement, je pense que c'est plus la symbolique, parce que si on parle de ces 75 foyers les plus riches et que finalement le gouvernement, après cette étude-là, réfléchit et se dit, bon, on va rétablir, on les refait passer à 26%, à 46%, parce qu'ils sont passés à 26%. Ça rapporte combien? Je veux dire, c'est plus la symbolique
Il y a quand même une question. Quand tu regardes même ne serait-ce que les 500 familles, quand tu vois que c'est en 10 ans, leur fortune, leur patrimoine a été multiplié par 5, là tu te dis, il y a un problème, parce que personne n'a eu son patrimoine multiplié par 5 en 10 ans. Donc là cette question doit être je veux dire, c'est pas une question qui va résoudre tout, et
non,
mais
voilà.
C'est une question d'équité sociale et justice sociale.
Pas être démagogique. Parce que souvent on nous explique que grâce à ça, on paye la réforme des retraites, on paye tout. Non, ça va.
Non, mais c'est une vraie question. Je veux dire, et même c'est une vraie question.
Des questions de justice et d'égalité.
Je trouve que sur la fiscalité, là on est en train de payer nos impôts sur le revenu, là, on les a tous déclarés. Et il y a quand même des questions à soulever. Par exemple, vous gagnez 70 000 euros, vous avez un très bon salaire. 70 000 euros, vous gagnez ça. Au-delà de ce que vous avez gagné.
Par mois. Parce qu'un bon salaire, c'est 70 000 par mois.
Ça, c'est Sarah Salman. Ça, c'est Sarah Salman. Elle n'est pas là sur le plateau. Et d'ailleurs, si tu lui poses la question, j'ai vu qu'elle était très fâchée. Elle a quitté le plateau, donc il ne faut pas lui poser cette question-là.
Combien elle touche.
Combien elle touche, elle est très fâchée. Ouais.
Donc, elle sera là, on lui posera la question.
On
l'embrasse.
Et on l'embrasse, bien sûr. Donc là, au-delà de 72 000, je n'ai pas le chiffre exactement en tête, vous avez un taux marginal à 41%. C'est-à-dire que là, tout ce que vous allez gagner, vous allez être imposé à 41%. Ouais. Et là, vous allez le gagner sur votre travail. Donc, quelqu'un qui va faire 100 000 euros, il y a 30 000 euros, quasiment 41% part aux impôts. Très bien. Bah, le problème, c'est que quelqu'un, par exemple, qui va toucher des dividendes, des revenus financiers, là,
pourquoi
il a une flat tax à 30% seulement.
Oui, flat tax, ouais.
Alors, pourquoi toi, ton travail doit être plus imposé qu'un mec qui dort et qui touche un revenu où là, où il a une flat tax à 30%? Là, c'est un problème de justice fiscale. Et donc, ça, il faut le dire.
Je pense qu'on était
un mec comme Eddie Guézard qui bosse 24 heures par jour.
22
heures. Il bosse 22 heures par nuit. Voilà. Et ben, lui, il devrait dénoncer ça. Lui, je bosse, je dors 2 heures par nuit. Je fume 3 paquets de cigarettes par jour.
Ça dure jamais.
De cette flat tax qui a imposé moins que son travail.
On reconnaît qu'on était au-dessus de nos voisins européens.
D'accord.
Et que Macron a voulu s'aligner parce qu'il y a une concurrence fiscale sur les voisins européens.
On peut reprocher beaucoup de choses
à Macron, mais ça, c'était plutôt malin.
Regarde ce que tu dis, Olivier.
On est fier de dire qu'en Europe, la France, c'est le premier pays en termes d'investissement étranger. Mais il y a un moment, il y a une raison. Si tu ne crées pas les conditions, ça n'existe pas.
Il y a des trucs qui a marché quand même.
Ce qui est marrant, c'est que ceux qui touchent des dividendes, ils regardent à l'Ouest, ils disent, ah ben eux, ils ont moins, donc baisser les taxes, là, tout le monde accepte. Là-bas, et puis les travailleurs, pour leur salaire, ils regardent du côté de la Chine, on leur dit, attention, il faut baisser ton salaire parce que c'est moins compétitif qu'un Chinois ou un Roumain.
Le problème qu'on a en France, c'est pas un problème d'imposition. Le problème qu'on a en France, c'est la redistribution des richesses. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'avant de parler des impôts que tu vas payer, je veux dire, toutes ces grosses fortunes, pourquoi ils sont là? Parce qu'ils peuvent gagner 10 000 fois ce que gagnent leurs salariés. Moi, je veux dire qu'ils sont très loin d'être communistes, mais vraiment très, très loin. Moi, demain, là, les communistes qui voulaient voter cette loi, de 1 à 20. Moi, chez moi, tu peux faire voter une loi qui dise que tu peux pas faire plus de 1 à 3, ça me gêne pas. J'ai jamais prélevé 3 fois ce que gagnent mes salariés. Donc, quelque part, il est là le problème. Si l'entreprise gagne plein d'argent puis que ça remonte tout à la même personne, il est là. Tu redistribues à tes salariés. Il y a un moment que tout le monde gagne sa vie. Et correctement, quand tu as pris des risques, c'est normal. Mais c'est pas normal que dans une boîte, un mec qui a 1200 balles par mois et quand le patron prend des millions et des millions d'euros.
Je suis d'accord avec Johnny, parce que tu vois, c'est cet écart-là. Il était dans les années 70. On était de 1 à 40. C'est-à-dire que la différence entre le salaire moyen d'une entreprise et le PDG, c'était 1 à 40. Mmh. Aujourd'hui, on est 1 à 200. Aux États-Unis, 1 à 300. C'est-à-dire qu'il y a une partie en haut qui s'envole quand même. Et ça, il faut le dire.
Ça, c'est pas normal. Et c'est ce que les gens supportent plus.
Et je pense qu'aujourd'hui, exactement. Je pense que quand tu viens salarié, bosse plus. Tu vas avoir ta prime à la fin, tu vas être augmenté de 2%. Le mec, il dit, ouais, bon. Parce qu'il voit les chiffres. Mmh. Quand vous faites vos réunions annuelles, là, tous les ans, il y a un team building. Tu vois les chiffres de la boîte. Quand tu vois les chiffres de la boîte, tu vois combien de rapports, tu vois combien a touché ton boss. C'est difficile de t'investir quand ton boss touche 300 fois plus que toi.
On va passer par le VAR, écouter ce que Jacques a à nous dire. Bonjour Jacques.
Bonjour à tous.
Jacques, est-ce qu'aujourd'hui il faut corriger ces erreurs et taxer les ultra-riches? Alors dites-nous.
C'est même urgent. Écoutez, j'ai une formation comptable. Hein. On va prendre les trois comptes qui existent en comptabilité. Le bilan, hein, le compte d'exploitation générale, le compte de perte et profit. Eh bien, les actionnaires, on les trouve dans les postes capital. Ça veut dire propriétaire de l'entreprise et il touche des dividendes. Et on le dit productif. Les salariés qui travaillent, qui font le travail, qui font les bénéfices, qui vont permettre de payer les dividendes, on les trouve dans le compte d'exploitation générale à la rubrique des charges d'entreprise.
Ouais.
Ils sont une charge pour l'entreprise. Alors que les actionnaires, ce sont les apporteurs de capitaux. Ouais. Mais en dehors des capitaux originels, quand il y a des augmentations de capitaux, c'est grâce aux bénéfices de l'entreprise et donc au travail des gens. Je crois qu'il y a un rééquilibrage qu'il faudrait faire. Les gens ne connaissent pas la situation. S'il n'y avait pas les salariés et la politique... J'ai travaillé dans la banque, dans deux banques, le réseau Banque Populaire et le Crédit Mutuel. Et je peux vous assurer que c'est les salariés qui font les résultats d'entreprise et pas les actionnaires.
On est bien d'accord.
Je trouve que les salariés sont mal payés et principalement les moins gradés.
Oui, mais vous l'avez dit.
Ils sont soumis aux problèmes de difficultés de travail, d'efforts, de climat, etc. Ils ont une espérance de vie plus faible. Moi, j'ai 78 ans aujourd'hui. J'étais cadre dans l'entreprise. Je sais pas, j'ai pas de problème de santé. Il me reste encore des années à vivre. Ces gens-là, pour la plupart, ils sont morts déjà.
Mais Jacques, on est d'accord.
Il faut revoir le système des retraites.
Non mais Jacques, on est d'accord, mais moi je trouve que c'est toujours un peu abscon d'opposer actionnaires et salariés, parce qu'on a besoin des deux. Il y a pas d'entreprise sans capitaux, et il faut bien quand même à un moment donné des actionnaires, de l'argent, etc., pour faire développer et aussi à la fin payer les salariés. Donc opposer les deux, ça c'est vraiment un débat assez manichéen et très français.
C'est
ça.
Pas opposé, c'est
dans les pays anglo-saxons on n'a pas ce débat.
Il faut se dire que quand t'as un résultat dans l'entreprise, la part des dividendes doit pas être exponentielle, alors que la part réservée aux salariés diminue.
C'est le partage des valeurs.
On est exactement ça. Le partage des richesses, c'est là où il faut travailler.
Les choses.
C'est
allez-y, Jacques, vous voulez ajouter.
Quand tu travailles sur l'impôt, c'est trop tard. Les distributions sont déjà faites.
Bien sûr.
C'est vrai.
Allez-y,
est-ce
Jacques.
Que je pourrais parler là.
Oui, je vous en prie, Jacques.
Allez-y.
Bien sûr.
Voilà. Eh bien, écoutez, allez-y. Quand j'étais dans une banque, je ne vais pas te dire laquelle, parce que c'est quand même.
Vous l'avez dit.
J'ai appris qu'il y avait des malversations sur des bons de caisse anonymes. Bon, alors, quand je suis revenu, je venais parler au DRH, qui m'a dit, monsieur Huguet, vous faites ce que vous voulez, moi, je n'en parle pas, parce que vous savez très bien que le responsable d'agence est le copain du DGA. Bon, ça m'a travaillé. J'ai été voir le directeur général, je lui ai parlé, je lui ai expliqué ce qui se passait, pas le fait que je n'avais pas rencontré, parce qu'il était au tennis pendant l'après-midi, je veux dire, mais je lui ai parlé de ce qui se passait, parce que c'est des sanctions fiscales qu'on encourait. Et la réponse que j'ai eue au bout de quelques secondes, c'est monsieur Huguet, cette agence est la plus rentable. Voilà, terminé. La discussion. Oui, oui. Et puis j'ai été emmerdé par la suite. Parce que 1 et 1, ça fait pas 2 pour le directeur général.
Qu'est-ce que vous avez foutu de votre nez là-dedans, monsieur Huguet? Il y a un moment, il faut arrêter les conneries.
Il écoute pas là, il est parti là.
Non, mais j'entends. Voilà, Jacques dit qu'on protège les puissants, on protège ceux qui font et qui rapportent le pognon. Je remercie Jacques d'avoir été avec nous. Merci Jacques. Passez à bientôt dans les GG. 44% seulement des Français payent l'impôt sur le revenu aujourd'hui. Et dans ces 4% de Français qui payent l'impôt sur le revenu, quand tu ramasses, tu tombes sur 20% qui en fait payent la masse quasiment de l'impôt sur le revenu. Donc en fait, les ultra-riches y échappent. Car t'as un Français sur deux qui le paye, qui paye, et au milieu t'as encore un quart qui paye pour tous les autres. C'est peut-être globalement.
Alors il y a, ouais, mais alors
ça qu'il faut revoir.
Oui, mais
généralement.
Je te démontre. Oui, alors d'accord, mais l'Institut des politiques publiques tord un peu le coup à cette idée reçue, parce que si effectivement ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, ils ont d'ailleurs été sortis par François Hollande, François Hollande qui avait supprimé une tranche, ils paient quand même pas mal de CSG, donc à un moment donné.
tout le monde paye sur son revenu. Voilà. Ouais, avec la CSG. Oui. En fait, la CSG, c'est un deuxième impôt sur le revenu. Ouais. On le dit pas suffisamment.
Oui, mais la voilà, CSG, c'est quand même pas grand chose. Non. Un truc à la fin de l'année.
Bah, t'es à 9%
quand
pour
tu
ça.
Payes que la CSG, ouais,
Ils ont réappelé un revenu. Ils ont recalculé une forme de revenu qui n'est pas que le salaire, en fait. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir que ça, c'est une progressivité, on le voit bien.
Je trouve que l'Institut, elle montre assez progressif, sauf effectivement quand on arrive avec les ultra-riches, où tout d'un coup, ça devient régressif, donc là, il y a un problème.
Oui, mais on fait ça comme si on parlait de gens qui fraudent, ou il n'y a rien d'illégal là-dedans. Je regardais globalement tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on échappe à l'impôt sur le revenu. Tous les dispositifs sont légaux, qui ont tous été mis en place par les pouvoirs publics, par les politiques, que ce soit les niches fiscales pour la classe moyenne. Et il y en a 400. Les dispositifs fiscaux, les holdings et tout ce que tu veux, tout ça, c'est parfaitement légal. Tu vas voir un fiscaliste ou tu vas voir un avocat qui dit voilà monsieur ce qu'on va faire. Surtout n'oubliez pas de le déclarer quand arrive la déclaration sur le revenu. Et puis au final, tu remercies ton conseiller, dire merci monsieur, vous avez bien fait votre boulot. Je paye moins d'impôts.
Au final, on est quand même le pays le plus imposé d'Europe. C'est-à-dire que on a deux choses. Alors on a le niveau de dépenses publiques le plus élevé d'Europe, mais donc comme on dépense beaucoup, on a aussi besoin de prélever beaucoup. Donc est-ce qu'on doit continuer à être les champions d'Europe des prélèvements obligatoires, sachant que on n'arrête pas de se plaindre midi et soir de la mauvaise qualité de nos services publics.
Ah ben voilà, moi je veux bien être le pays où on paye le plus d'impôts, mais je veux savoir ce qu'on en fait et comment on l'utilise. Aujourd'hui, quand je vois les résultats de l'éducation nationale, je vais te dire un truc, quand tu regardes tous les classements qu'on a sur nos écoles en France, ça devient catastrophique. Quand on voit les services publics dans l'état où c'est rendu,
quand on voit la justice qui met trois plombs pour rendre.
Donc il y a un moment, j'ai envie de dire stop, qu'est-ce qu'on fait de cet argent?
Mais je pense que ça vaudrait le coup de tester, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui si demain ont commencé à basculer sur un système à l'américaine pendant 6 mois, t'as beaucoup de gens, je pense, qui demanderaient à revenir.
Je crois que personne demande à basculer. Là aussi, on tue le débat. Je crois que il y a les pays du Nord. À mon avis, sont plus un modèle que les Américains pour
les
nous.
Pays du Nord,
dans les pays du Nord, il y a une efficacité de la dépense publique. Je suis désolé. On cite quand même la Norvège comme un modèle en termes d'éducation nationale. On cite quand même ces pays-là sur plein de domaines. Donc il y a quand même un modèle d'efficacité de la dépense publique. Qu'il faut peut-être regarder de près.
Sur les méthodes de l'éducation, le Danemark. Sujet, mais après, tu regardes par exemple sur les retraites. Ils ont fait une grosse réforme des retraites à points en Suède. T'as pas vu? Il a été interrogé sur BFM, l'ancien. Le mec était en charge, le commissaire, enfin le ministre était en charge de la réforme des retraites, il a dit qu'il a fait son mea culpa. Donc il faut faire attention.
Les Français sont pas prêts pour un régime de retraite à points.
C'est ce qui est prévu au départ. D'ailleurs, qui est passé par la loi, qui n'a pas été appliqué.
Il se passe la même chose que comme en Grèce. Le gouvernement dit dans la moitié
de la France. Alain a raison de dire une chose, c'est-à-dire que tout ça est légal en fait. C'est ça qui est dingue. Et en fait, c'est ça aussi qui embête les Français, c'est que des gens en fait. Qui vont gagner 3, 4 000, 5 000 euros. C'est-à-dire des gens plutôt, on va dire, supérieurs à la classe moyenne, qui gagnent bien leur vie. Eux, ils n'ont pas les moyens de se prendre un fiscaliste qui va commencer même à leur dire, écoute, là, prends une femme de ménage, prends un truc, on va faire baisser ta base fiscale. Alors que quand on commence à gagner des sommes énormes, on a les moyens d'optimiser. C'est pas nous qui le faisons nous-mêmes, parce que c'est quand même très difficile. Eh bien, c'est quelqu'un qui le fait et qui optimise et qui permet.
On va continuer d'en discuter avec vous, les amis, dans un instant. Est-ce que, effectivement, il faut revoir le système fiscal, taxer davantage ceux qui gagnent beaucoup? À tout de suite avec les GG au 32-7.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Zora Bitan, cadre de la fonction publique. Johnny Blanc, qui est avec nous, il est chef d'entreprise dans les Deux-Sèvres. Et puis Thomas Porcher nous accompagne. Thomas Porcher, qui est économiste, professeur d'économie. On parle des impôts, on parle des super-riches, des ultra-riches, appelez-les comme vous voulez, qui aujourd'hui, proportionnellement, arrivent à payer moins d'impôts quand même qu'un cadre supérieur, simplement si on se fie sur aux tranches telles qu'elles sont là. Alors, je regardais là, dans les rapports de Jean Pisani-Ferry, qui est un proche d'Emmanuel Macron d'ailleurs, et qui dit il faudrait de manière symbolique rétablir au moins aujourd'hui un impôt pour les plus fortunés.
L'ISF vert.
Voilà, et le faire basculer vers l'écologie, en disant... Voilà, ce serait une manière aussi de leur dire, vous pouvez contribuer planète, c'est une bonne action morale.
C'est vraiment le problème de notre pays. Plutôt de chercher où est la racine du mal, on punit tout de suite, tu vois, c'est la punition. Moi, je préférerais, comme je disais tout à l'heure, qu'on réfléchisse sur comment on redistribue l'argent de façon à ce que ces gens-là ne puissent plus devenir les hommes les plus riches de la planète. C'est ça qu'il faut changer.
Ouais.
C'est pas l'impôt.
Après, cette question de la taxation des très riches, là, elle est dans toute l'Europe. Hein. Je veux dire, quand t'as l'économiste en chef de la BCE qui dit qu'il va falloir trouver des ressources et donc taxer les plus riches, c'est-à-dire que c'est un phénomène maintenant assez mondial. Même aux États-Unis, ils y pensent.
Un nouveau partage.
Voilà. Ouais. Voilà. C'est. Enfin, je veux dire, tout le monde revoit les années 50-70 où il y avait une taxation beaucoup plus forte, une pression fiscale beaucoup plus forte sur les plus riches et se dit finalement, est-ce que ça fonctionnait pas mieux? Et donc, c'est pas que franco-français. Ça, il faut le dire, c'est un truc qui traverse les frontières.
Mais l'ISF, oui, le problème, c'est que en France, on est quand même dans l'instabilité fiscale. C'est-à-dire qu'un président arrive, oui. Il supprime l'ISF, quoi que Emmanuel Macron ne l'a pas supprimé. Il l'a transformé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un ISF pour ceux qui ont du patrimoine immobilier. Ouais. En revanche,
Les plus pauvres des riches.
Les plus pauvres des riches, en quelque sorte. Hein, même certains se retrouvent riches alors qu'ils n'ont qu'un appartement à l'île de Ré ou à Paris.
C'est ça.
Ou une maison à l'île de Ré, plutôt. Et il a supprimé pour les autres. Pour
c'est ça qui est dingue.
Comme diraient certains, pour ses amis banquiers et actionnaires. Mais, là, tout d'un coup, on nous dit, mais il faut rétablir l'ISF. Et on peut pas non plus tous les 5 ans changer la règle du jeu, à un moment donné. Ouais. Une espèce de stabilité fiscale.
C'est ce qu'on demande quand tu es chef d'entreprise. Ce que tu demandes avant tout, c'est qu'il y ait une lisibilité assez loin. Parce qu'en fin de compte, le problème, c'est quand on change les règles du jeu tous les 10 minutes, on te dit que gérer, c'est prévoir. Pour prévoir, il faut que
c'est le problème de la gouvernance en étant visionnaire. En fait, c'est récurrent dans notre pays. Les présidents sont là pour 5 ans, voire parfois moins, d'année en année. C'est-à-dire qu'ils prennent des dispositions qui ont vocation à faire effet sur 1 an, 2 ans. Il n'y a pas de vision, parce que s'il y avait des visions à long terme, et ça a existé, comment tu peux te projeter sur les 10, 20, 30 ans à venir? Là, on le fait un peu sur le climat, l'écologie, etc., parce qu'il y a urgence et parce que là, tout le monde est concerné.
Et puis c'est mondial.
Et puis c'est mondial. Mais c'est vrai que sur les réformes et sur les mesures, on prend par exemple la réforme des retraites, on remet ça dans quelques années, puisque de toute façon, il y a encore plein de trous dans la raquette.
Parce qu'il y a un manque de courage politique aussi.
Il y a plein de choses qui ne sont pas réglées, donc on y va.
Et ça, avec le quinquennat, rien arrangé dans tout ça. Hein.
Nous sommes avec Eric. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez choisi votre camp, Eric. Oui, on en remet une petite couche, là, un petit prélèvement pour les ultra-riches ou pas?
Oui, mais pas du tout de la même façon dont ça a été avancé pour le moment, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la flat tax, elle sert à énormément de petites entreprises qui payent déjà beaucoup d'impôts. Ouais. Et en plus, ce n'est pas comptabilisé pour la retraite. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, c'est-à-dire que soit vous prenez une prime et vous comptabilisez pour la retraite, et dans ce cas-là, vous allez être taxé à l'impôt sur le revenu, donc 40-42%, parce que c'est à peu près les montants que moi je paye, parce que je vis plutôt bien. Par contre, lorsqu'on prend une flat tax, c'est 30% payés par la société, mais qui ne sont pas comptabilisés pour la retraite. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, parce que vous parlez de 300, 400 fois le salaire minimum, mais vous êtes en dehors des clous, vous parlez de 15, 20, 30 grosses sociétés ou 50, peu importe, mais 80% de l'économie française, elle est tenue par des PME, qui se lèvent tous les matins et qui se couchent tard le soir parce qu'ils taffent, ils sont au taf, point barre. Et ce qui se passe, et évidemment... c'est que lorsque vous travaillez pendant 20, 30 ans et que vous payez 42% d'impôts et que vous payez encore des impôts sur les sociétés, etc., le jour où vous vendez la boîte, vous ne faites plus aucune rentrée d'argent. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens créent des holdings pour pouvoir remonter l'argent sur la holding pour ensuite... Il n'y a plus de rentrée d'argent, il n'y a plus de salaire. Donc, la holding va créer un salaire avec ses 30% de flat tax. Mais ça ne comptabilise pas sur la retraite. Ça n'empêche pas de devoir se faire un salaire si on veut comptabiliser des choses pour la retraite. Mmh. Donc, cette solution-là, qui a été créée par Macron, est une très bonne solution pour 80% des PME qui sont des bosseurs, qui essayent, qui souvent, d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, ont des salaires qui sont inférieurs à leurs meilleurs salariés, sauf qu'ils se récupèrent un petit peu avec ça en fin d'année.
Ne touchons pas ce système. Faut oublier quand même que, par exemple, tu prends des gens comme nous, effectivement, qui payons 41% d'impôts. Moi, quand je vois ce que la retraite me propose, j'ai reçu le courrier l'an dernier, on me propose 1 200 € par mois. Hein.
Non.
Mais bien sûr que si. Si t'as pas fait de retraite complémentaire, que tu t'es pas occupé de tes affaires personnelles, ce qui est mon cas, parce que j'ai pas fait attention, et puis ça m'intéressait pas, parce que je pensais qu'à l'entreprise, et j'ai toujours tout réinvesti dedans, n'empêche qu'à la fin, j'ai 1 200 balles par mois. L'entreprise, sauf que moi, c'est mes enfants qui reprennent, donc je ne vais pas les massacrer non plus pour récupérer l'argent. Donc, effectivement, peut-être que la solution, c'est de
faire un truc. Allez-y, Eric.
Et d'en faire un
truc. c'est que là, effectivement, ce que dit monsieur, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que lorsque vous vendez votre entreprise, vous rentrez de l'argent. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que pendant 20 ans, le gars, il a trimé avec 1000 balles par mois, ou 200 balles par mois, ou 1500 balles par mois. Il a mis de côté un peu la vie familiale. Ce sont des choix, hein. Je le critique pas.
Bien sûr,
c'est des choix personnels. Mais sauf que il n'a pas cotisé comme basé sur un salaire de 10 000 balles par mois pour la retraite. Ça, il s'est fait ça une fois que sa société, elle a commencé à créer de l'emploi, à s'enrichir un petit peu et à créer de l'argent. On voit toujours la frise qui est sur le gâteau. On juge les gens par rapport à leur voiture, on juge les gens par rapport à ce qu'ils ont, sauf qu'ils ont oublié les 20 ans ou 30 ans passés derrière.
Attendez, Eric, si je peux me permettre, je suis d'accord avec vous et je vous contredis pas, mais là, vous déplacez le sujet, vous déplacez le débat.
Non,
vous le déplacez, parce que là, on parle d'une petite partie des entreprises. On peut parler même du CAC 40, mais le CAC 40 reste quand même une entreprise qui crée, reste quand même les 40 premières entreprises qui créent énormément de richesses, qui emploient quand même une grosse partie des salariés, parce que certes, c'est une qui dépendent de ça, et que ces 40 entreprises, par exemple, elles aient 1200 filiales dans les paradis fiscaux, il faut se poser les questions, c'est-à-dire que là, on parle pas de vous, en fait, on parle pas des PME. Vous savez, un dernier exemple. La flat tax, je suis d'accord avec vous, mais je sais pas, après, dans les volumes d'argent, la flat taxe, elle concerne beaucoup plus les volumes d'argent que nous avons perdus, les grosses entreprises. C'est comme le CICE. Quand Macron, il a mis en avant le CICE, quand il était Hollande. Ministre de l'économie, ministre de l'économie, ou Hollande, ils nous ont dit, ça va servir les PME. Mais je suis d'accord avec vous, mais on a vu aujourd'hui les montants. Les montants perdus, ils ont été dans les grandes entreprises qui l'ont beaucoup plus habilement utilisé que les PME. Donc qu'est-ce qu'aurait dû faire le gouvernement? Il a peut-être dû faire comme aux États-Unis, un Small Business Act, c'est-à-dire quelque chose qui concernait que les petites entreprises. Là, peut-être on peut parler de flat tax pour eux, peut-être on peut parler de CICE.
Mais si tu remets en cause le système de la flat tax, tu vas pénaliser les PME.
Allez-y, Eric.
Non, mais je vous ai dit en introduction que j'étais pour.
Bien sûr.
Parce qu'effectivement, le système est mal foutu. Donc effectivement, il y a un moment donné, lorsque vous êtes une très grosse entreprise, et là on parle de 20% de l'économie française, bon d'abord il faut prendre en considération quand même que en général, ils ont la moitié, trois quarts, voire
80%
du chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger.
Hein.
Oui. Donc ça c'est une chose. Maintenant, que ce soit le CICE ou la flat tax sur ce genre de société, effectivement, on arrive dans les excès, dans les abus d'un système qui est mal foutu.
On peut pas, j'imagine, c'est pas légal de mettre une flat tax uniquement
si tu peux le faire. Le problème, c'est qu'on va encore tomber dans ces effets de seuil à la française, où pour 200 balles, tu bascules de l'autre côté. Alors donc, t'arrêtes de développer ta boîte parce que, comme en France, tu veux surtout pas passer à plus de 50 salariés parce qu'autrement, tu te fais massacrer. C'est nul, ça.
Eric, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous nous appelez d'où, Eric?
Lyon.
Mon cher Eric, vous connaissez la brasserie Le Rep?
Oui, de nom,
Eh ben parce que Vincent Moscato sera là-bas cet après-midi avec toute l'équipe du Super Moscato Show. Ils seront en direct.
15 ans.
C'est le Tour de France, de toute la bande à Moscato. C'est dans le deuxième arrondissement. C'est la brasserie Le Rep. Les Lyonnais la connaissent. Donc allez voir la bande à Moscato tout à l'heure à partir de 15h en direct de Lyon. Merci Eric. David va conclure la discussion. On va aller du côté de Bordeaux. Bonjour David.
Bonjour les GG.
Alors,
bonjour
David. Quelle est votre opinion là sur cette discussion alors David?
Alors, il y a deux niveaux, parce qu'on parle des deux extrêmes. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait, parce que c'est purement factuel, de dire que une minorité aujourd'hui paye l'impôt sur le revenu. C'est passé, hein, si je ne m'abuse, vous disiez tout à l'heure 44%. Sous Hollande, on était encore, je crois, au-dessus des 50, à 52. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que, et ça a une incidence également sur l'intégration et le fait que la population aujourd'hui, 56% de la population ne paye pas sur le revenu, pourquoi ces gens-là s'intéresseraient à l'argent public? Ils ne payent pas un impôt direct, effectivement, ils le payent au niveau de la CSG indirect. Mais je pense
TVA,
que
TVA, etc.
TVA, qui est le premier impôt français.
Oui, et puis sûrement la taxe d'habitation.
Mais il y a un problème, vous avez raison, du consentement à l'impôt, de l'implication, parce que ça crée aussi de la rancœur de la part de ceux qui ont l'impression de tout payer, l'impôt sur le revenu, etc., qui disent, moi je paye tout, j'ai droit à rien quand il y a des aides, et en plus, certains semblent, entre guillemets, profiter du système.
Oui, classe moyenne.
Tout à fait, donc simplement le fait de payer, ne serait-ce que, alors effectivement, moins de CSG, moins de charges, mais payer moins de... moins de comment dire d'impôts, ça en tout cas plus d'impôts, ça effectivement permettrait de changer tout ce système. Pour les ultra riches, alors ça c'est encore un autre débat, mais pour les ultra riches effectivement ce serait totalement démago de les taxer encore plus. Je parle d'un niveau franco-français. Je pense que la solution ce serait en tout cas un accord européen, parce que quand on est ultra riche par définition, on peut aller où on veut.
C'est la position d'Emmanuel Macron, ça.
Exactement. Mais
faire ça à l'échelle européenne, sinon ça sert à rien.
Mais ça marche pas. Tu vois bien, regarde, pendant un temps, les Irlandais, je vais dire, on faisait tout pour attirer les entreprises chez eux parce qu'ils ne payaient pas d'impôts.
Oui, mais il y a quand même, c'est des débats qui traversent l'opinion, enfin, les sociétés allemandes, espagnoles, italiennes. Ouais. Alors, tout le monde a ces mêmes débats.
Merci, David. David, lui dit, il faudrait le faire à l'échelle européenne. On va regarder, on a posé la question. Taxer oui ou non les ultra riches. Je pense qu'il n'y aura pas de débat sur le.
Pas beaucoup de
65-34.
C'est pas un raz-de-marée.
Ouais, faudrait voir le nombre de gens.
Parce que tu sais,
il y a beaucoup de gens.
Mais les gens, ils se disent aussi une chose.
Se disent ultra riches alors qu'ils sont pas riches.
Piquer de l'argent à ton voisin, ça t'en donne pas à toi.
Voilà, c'est ça.
Et c'est ça le problème.
Il y en a aussi beaucoup qui disent qu'il y a déjà beaucoup d'impôts qu'il faut réfléchir à la façon.
Ouais, puis t'as des gens. Dans un instant, ça se passe chez vous. On sera du côté de Grasse avec la municipalité qui décide d'augmenter le tarif de l'eau pour l'été de façon à responsabiliser tout le monde.
C'est vraiment cette émission aujourd'hui.
Eh bien, on. On va en parler. Louis Gerbier va nous donner tout le détail et vous allez réagir avec nous au 32-16. Bien sûr, il est 10h35, 11h25. Vous êtes avec les Grandes Gueules. C'est sur RMC, RMC Story.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Ouais, oui, bon, les GG, c'est là, et bien là, les Grandes Gueules, c'est en direct. C'est de 9h à midi. C'est avec vous, Thomas Porcher, professeur d'économie, Johnny Blanc, qui est le roi du polo. De couleur, avec lequel on peut régler effectivement la haute définition, les bandes horizontales,
ces trucs de Johnny.
Vous êtes triste, gris.
Mais oui, mais Johnny, c'est comme ça. À chaque fois qu'on met des couleurs sur le plateau.
On a l'impression que tu reviens de vacances, c'est ça. Ouais, c'est sympa.
Mais moi, je vais à la campagne, c'est les vacances.
Là, on travaille comme des bœufs. Mais vraiment raccord avec notre wall et les couleurs de notre wall. C'est bien. Les habitants nous accompagnent. Cadre de la fonction publique, c'est un polo papier peint, me dit-on dans l'oreillette.
Oh là là,
ça rompt les caméléons.
Allez, on y va, c'est parti pour le Ça se passe chez vous.
RMC, les grandes gueules.
Ça se passe chez vous.
Ça se passe chez vous avec notre coproducteur Louis Gerbier. Bonjour Louis.
Salut Alain, salut à tous.
Où va-t-on aujourd'hui ?
On retourne en Côte d'Azur, on va à Grasse.
Sur la Côte d'Azur.
Ouais, mais je sais que ça t'agace, c'est pour ça que je l'ai dit. Sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes, Grasse évidemment, la ville des parfums. Mm-hmm. La ville des parfums qui en alerte sécheresse comme tout le département. Parce que le canal du Foulon, qui constitue l'une des ressources principales d'eau de la ville, est presque à sec. Et donc dans ce contexte, la ville a mis en place une tarification saisonnière sur l'eau. Désormais, sur la période de juin à septembre, l'eau sera facturée plus cher que sur la période hivernale. Par exemple, un couple avec deux enfants paye jusqu'à maintenant 80 centimes le mètre cube. Désormais, il paiera 1 euro de juin à septembre et 60 centimes d'octobre à mai. Et les gros consommateurs d'eau aussi verront leur facture augmenter. On aura le maire bientôt en ligne. Alors, adapter
dans sa piscine.
Ouais, là, il finit 2-3 longueurs. Le prix de l'eau adapté à la saison, qu'est-ce qu'on en pense, Johnny?
Bah, j'en pense que quand tu mets des petits écarts comme ça de 20 centimes, qu'est-ce que tu veux que ça fasse au consommateur? Quelque part, tu consommes un mètre cube d'eau par jour, boum, ça te fait 20 centimes par jour.
Mais les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Ouais, mais je pense que le problème, là encore, on parle de punition plutôt que d'éducation et de voir comment on peut amener les gens à prendre conscience que l'eau va devenir un bien rare et qu'il faut l'économiser et le protéger. Quoi.
Alors le maire parle aussi justement que cette mesure, c'est le début de la pédagogie et de...
Zora, t'es d'accord avec Zora?
Je vois pas l'intérêt, je pense plus... D'abord, la question des piscines, hein, c'est des endroits où on va dire qu'on n'a pas dit aux gens d'arrêter à la fois de construire des piscines et à la fois de pas les remplir.
On consomme pas d'ailleurs le plus d'eau la piscine.
Non, un peu un fantasme.
On dit que non.
Maintenant, tu ne changes plus d'eau a priori.
Non, on dit que normalement non. Donc c'est pour ça qu'il y a du côté de Perpignan, ils ont interdit l'achat de nouvelles piscines hors sol que tu remplis.
Ça va faire monter le prix de ceux qui ont une piscine. Hein,
voilà, exactement.
Le bien immobilier tout à coup prendre la valeur.
Mais non, moi je pense que il y a pas d'intérêt économique, mais c'est surtout que c'est l'intérêt pédagogique qui doit primer. Et on voit bien aujourd'hui, moi j'ai des petits enfants. ils sont hyper sensibilisés à l'eau. Ils aiment pas quand l'eau coule parce que déjà ils savent très bien que c'est un bien précieux. Donc je pense que nous-mêmes, que quelquefois le tarif, on doit faire gaffe.
L'idée, quoi. C'est, si je comprends bien, le maire sera avec nous pour nous expliquer, mais c'est de faire payer. Plus tu consommes, plus tu payes en fait.
Voilà. Oui, c'est un peu ça.
Thomas, d'accord.
Avec donc tu fais gaffe, quoi.
Moi,
pour ceux comme Sarah qui prennent deux bains. Voilà. Et qui s'en fiche.
Ah bah, Sarah Salman va payer cher.
Pourquoi mais elle s'en fiche.
Elle viendra se défendre.
La question de l'eau est une question très importante. Mais même au niveau mondial, je pense qu'il risque. Enfin, je veux dire, vous prenez par exemple. Non mais. Ouvrons un petit peu. Vous prenez un pays comme la Chine. La Chine, c'est 1/5 de la population mondiale. Ils ont seulement 8% des réserves d'eau douce. 80% de ces réserves sont déjà polluées à cause de la production. Et donc, comment ils vont faire? Ben, ils vont aller à un moment. Oui. Et là, ce qui va se passer dans des régions, souvent, c'est des régions du Sud. C'est des régions qui sont multipliées par 5 l'été avec les touristes. Et là, quand vous êtes quelqu'un qui vit là-bas et on vous dit, on va vous augmenter votre prix de l'eau, alors qu'il y a 5 fois plus de touristes qui arrivent, là, il va y avoir une opposition très forte. Et d'ailleurs, dans les premières réunions qu'il y a, où ils veulent imposer des restrictions, etc. Les gens, ils disent, mais les touristes, là, c'est eux qui doivent payer. Donc, ça va créer des vraies tensions. Donc, la question de la tarification, elle va être au cœur des prochains enjeux. Et là, vraiment, il faut faire très attention parce que si on commence à augmenter le nombre de mètres cubes, les familles nombreuses vont être plus impactées que les autres. Donc, il va falloir individualiser ça. Falloir faire vraiment.
Est-ce que tu dois être pénalisé parce que t'as des enfants?
Non,
le maire est avec nous.
Et attendez, il y a autre chose, c'est qu'il va falloir aussi s'attaquer un peu au réseau où il y a pas mal de
fuites. Exactement.
Et donc, il y a plein de choses à faire. Ça va être multidimensionnel, encore une fois.
Mais les travaux, moi, je vois, tiens, vers chez moi, du côté de Nice et puis ici à Paris, les travaux de rénovation des réseaux d'eau ont commencé.
Oui.
Donc, il y a vraiment là aussi une prise de.
C'est très bien.
C'est des milliards d'hectolitres qui sont perdus.
Énorme.
Bonjour, monsieur.
C'est plus que les piscines.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bienvenue dans les GG. Alors, la motivation, alors, votre motivation première pour cette nouvelle tarification, dites-nous, expliquez-nous.
Merci de me recevoir. D'abord, la motivation, c'est un enjeu de pédagogique et de sensibilisation. Ce n'est pas un enjeu financier, mais c'est plus d'ouvrir un débat pour sensibiliser les populations sur des difficultés de sécheresse très forte que nous rencontrons dans le département maralpin. On sent que la ressource est en tension forte et l'enjeu, c'est bien d'ouvrir un débat, et je suis content que ça permette aussi de m'exprimer à votre antenne, ouvrir un débat pour pouvoir sensibiliser nos concitoyens à ce sujet. Et on sent que voilà, c'est difficile en tout cas de sensibiliser. On le fait à travers ce débat-là et l'enjeu, vous l'avez souligné, n'est pas une question d'argent.
Mais pourquoi
c'est pas une question d'argent, pardon, mais j'ai une question qui me taraude. Pourquoi ne pas faire baisser le tarif de ceux qui consomment peu plutôt que d'augmenter forcément? C'est toujours dans un sens.
Bah, parce qu'il y a un coût quand même pour redistribuer l'eau.
Allez-y, monsieur le maire.
C'est ce qui a été proposé, vous l'avez évoqué en disant pendant les 8 mois où il n'y a pas de sécheresse, du mois de septembre jusqu'au mois de mai. On va baisser la tarification pour ceux qui consomment moins, d'accord, et là où il y a moins de tension sur la ressource. Et pendant la période estivale, où il y a beaucoup de problèmes de ressources, on a le lac de Saint-Cassien qui a baissé de 2 mètres, et bien c'est là où on va essayer de sensibiliser les habitants en ayant d'abord une politique tarifaire va sensibiliser et demander à chacun d'économiser la ressource. Et c'est un petit peu l'enjeu et le débat qu'on ouvre.
Ouais. Mais monsieur le maire, en fait, c'est surtout sensibiliser ceux qui vont arriver cet été. Il y a beaucoup de touristes étrangers dans les villas et autres aussi. Comment vous allez faire avec eux? Vous allez faire aussi des affichettes? Vous allez faire de la pédagogie?
Non, mais je pense pas que la question de tarifaire pour ces gens-là va impacter beaucoup de choses parce que c'est pas ce qu'ils vont regarder. Mais on ouvre un débat de société où il faut aller après rencontrer les papas, les mamans, les enfants, les familles et essayer de faire passer un peu comme on le fait aussi avec la gestion des déchets dans les familles le débat. Je pense pas que ça va avoir un impact, je dirais, avec les touristes ou avec l'activité estivale, parce que je pense pas que les gens regardent ces sujets-là pendant ce moment-là, mais c'est véritablement de responsabiliser, de sensibiliser la population, parce que la ressource va devenir de plus en plus compliquée dans les années à venir. On voit des phénomènes de sécheresse de plus en plus fréquents, de plus en plus difficiles et de plus en plus longs. Et donc, on doit essayer à la fois de parler de ces sujets-là et aussi, vous l'avez dit il y a quelques instants, de travailler à moins perdre dans les réseaux fuyards Il y a un gros sujet aussi là où il y a beaucoup de travaux à mettre en œuvre.
Il y a une grosse partie de pédagogie à mettre en place, moi je pense, parce que autant sur les déchets, trier les déchets, c'est relativement simple. Qu'on jette dans la poubelle verte, bleue ou jaune, ça change pas grand chose. Par contre, allez, moi je le vois avec mes petits enfants, expliquer à ma petite fille qui me tient des discours écologiques toute l'année qu'il faut pas rester une demi-heure sous la douche parce que ça consomme 500 litres d'eau, que ça sert à rien.
Elle te tient des discours écologiques.
Mais oui, ils sont sensibles à l'écologie, mais pas pour eux, quoi. C'est-à-dire que je lui dis, ben quand tu passes deux heures sur ton téléphone, tu sais que ça aussi c'est pas très écologique. Sous la douche, moi.
Reviens, tu es une petite souris.
Tu sais, excuse-moi, gamin, quand tu prends ta douche, tu te mouilles, tu coupes l'eau, tu te savonnes, tu as l'eau, tu te rinces et tu te casses. Non, ça coule, puis on se met à côté.
Faut qu'on se lave moins. Non, mais avant, on se lavait trois fois par semaine. Le bas du dimanche,
c'est vrai.
Le bas du dimanche, moi, ma mère m'a bien. C'est le bas du dimanche, là, tu faisais tout, les oreilles.
Sinon, tu faisais la toilette.
C'est vrai.
Non, mais tu sais que ma pote,
avec le gant,
d'ailleurs,
il y a un débat là-dessus, ça revient.
Non, mais d'ailleurs,
pour les enfants qui ont un peu d'eczéma ou la peau fragile, ils te disent ouais, une douche tous les trois jours. On en revient, c'est plus la douche. Parce que nous, il y a une époque, c'était vraiment la douche.
Bah, c'était le bain.
Et même avant, c'était parfois deux fois par jour.
Mais l'écologie, c'est quoi? C'est ni plus ni moins ce que les pauvres ont vécu. C'est-à-dire que tu prenais un bain par semaine, tu consommais du deuxième main. C'est-à-dire que tu allais à la Croix-Rouge,
tu prenais jamais l'avion,
tu avais un potager, tu prenais jamais l'avion. En fait, c'était une vie pauvre dans les années
70. Merci, monsieur le maire, d'avoir été.
D'ailleurs, le baggy, peut-être. Le baggy.
C'est ce qu'on a vécu, nous.
Le baggy, le pantalon large, qui est devenu très à la mode maintenant, et qui d'ailleurs, c'est généralisé dans le rap. Au début, c'était un baggy parce que c'était le
type
de ton grand frère. Quand on mettait, donc il retombait comme ça. Il retombait en dessous du casseau parce qu'il était trop grand.
Et là, t'as l'impression que les jeunes de 16 ans, ils te donnent des leçons, mais tu leur dis, mais ça, j'ai fait avant,
Nous sommes avec du côté de Montélimar.
On remercie le maire de Grasse de nous avoir mis au parfum.
Et bravo, on le félicite aussi.
Très bien. Ouais, t'es bien. Nous avons vous l'avez bouffé, mais elle vaut pas le coup d'être répété.
Bonjour, Eric.
Oui, bonjour, les grandes gueules.
Oula, enlevez le haut-parleur, Eric. Parce que
c'est fait, c'est fait. C'est parce que.
Vous êtes dans vous exercez dans une cathédrale, alors. C'est pas possible. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette tarification, alors?
Alors. Moi, taxer, c'est bien beau d'augmenter tout ça. Mais avec cet argent, on fait quoi? L'augmentation de l'eau, mettons. On fait quoi avec cet argent? Est-ce qu'on y...
On répare les réseaux, par exemple.
Et qu'est-ce qu'on met en place, alors, que ce soit nous ou l'État, pour économiser l'eau? On fait rien, à part taxer et nous prendre des sous. Quand on devait enlever le plastique dans les hypermarchés, On n'a pas enlevé les sacs plastiques, on les a vendus. Au lieu de nous les donner, on nous les vend. Donc, à la sortie, on a toujours du plastique. Et l'eau, c'est pareil. Donc, on va nous taxer l'eau. Mais avec cet argent qu'ils vont prendre en plus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place?
Vous préféreriez quoi, alors, vous, Eric?
Qu'on trouve des solutions pour économiser l'eau. Admettons, sur des constructions neuves, imposer des cuves. Des cubes pour récupérer l'eau et puis tu utilises les cubes sur le jardin. Ouais.
Voilà. Il y a aussi, vous savez, il y a un truc qui est très simple. L'eau, c'est pas le fait de la récupérer, c'est le fait d'arrêter de la consommer. Parce que regardez, quand on dit mettre des citernes sous, si raisonnablement, on peut tous réduire notre consommation d'eau. Moi, je vais dire un truc très simple. Quand on parle chez moi, je suis concerné, les bassines de Sainte-Soline, c'est chez moi. Donc, quand on voit le bazar qu'il y a eu autour de ces bassines, quand tu penses qu'à côté de ça, je vais dire, chaque particulier chez lui met des réserves d'eau de pluie de 1000-2000 litres. Multiplié par le nombre d'habitants, ça fait combien de bassines au niveau national? Mais ça, c'est normal. C'est-à-dire que l'écolo qui vient manifester au pied des bassines parce qu'il faut pas que l'agriculteur arrose, lui, il a 2000 litres d'eau de pluie qu'il récupère qui vont pas dans les nappes phréatiques pour arroser ses fleurs et son jardin. Ça, c'est normal. Donc, il y a un moment, c'est tous ensemble. La seule chose qui pourra faire que la planète s'en sorte, c'est la responsabilité individuelle. C'est pas ni l'État, ni personne, c'est juste nous. Arrêtons de consommer tout n'importe comment. C'est tout.
Merci Eric. Conclusion de la discussion.
C'est intéressant, c'est vrai. On nous a fait croire que tout ça était illimité, en fait.
Oui,
moi, quand j'étais jeune, on ouvrait le robinet, tu te lavais les dents, tu laissais tomber.
Ah oui.
Aujourd'hui, c'est... qu'il fallait aller au pire, remplir le seau.
Apprendre par exemple que l'eau des toilettes, c'est de l'eau potable.
Oui,
ça c'est quand même des conneries. On n'arrive pas à recycler les eaux usées comme certains le font dans d'autres pays.
Tu prends l'Israël, c'est 95% des eaux recyclées en Israël. En France, 5%.
Là, c'est quand même des politiques de public. Tu dis la responsabilité individuelle, je suis d'accord. Mais ça, les politiques publiques. Alors, avant, peut-être c'est bien de taxer, mais là,
il faut aussi que c'est pas normal. Ouais, en Israël,
le ministre de la transition écologique.
En Israël, c'est
recyclé. Monsieur Bich, les pommeaux de douche qu'on vend, tu sais, qui coupent, qui font brumisateur, c'est des solutions aussi. Pour pouvoir économiser.
Combien de temps sous la douche?
Allez,
retour.
Eh bien ça, tu sais quoi,
c'est une vraie question.
Eh ben, on coupe Et puis on vous raconte ça dans les podcasts dans un instant. Allez, restez avec les GG.
C'est malin.
Bravo.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.